France Musique. Musicopolis. Jardin de plaisir, se divertir en musique à Londres. Voilà de quoi nous étonner. Nous qui avons sur le climat de la Grande-Bretagne tant d'a priori négatifs, nous pouvons nous esbobir à juste titre que ce soit justement là où fleurissent les pleasure gardens, les jardins de plaisir ou jardins d'agrément. Mais à bien réfléchir, quoi de plus normal? D'abord, bien sûr, il y a aussi du soleil dans ce beau pays. Et surtout, comme on est enfermé lorsqu'il fait mauvais, on a d'autant plus envie de sortir lorsque le temps s'arrange. Ce qui explique que dès les années 1630, de nombreux parcs et jardins de Londres aient été ouverts au public. Les Anglais sont de grands entrepreneurs. Il n'y avait qu'un pas à faire ensuite pour ouvrir des jardins de plaisir qui offriraient rafraîchissement, divertissement et musique. Le principe du Pleasure Garden est simple. Vous payez une somme modique pour entrer et vous pouvez ensuite vous promener tout à loisir dans le jardin, qui peut atteindre la taille d'un parc. Le lieu est souvent divisé, avec des paysages variés, des allées, des chemins, des statues, des petits bâtiments, un kiosque à musique. Vous êtes bien promené dans le Pleasure Garden, vous pouvez dîner. Il y a des petits box pour se réunir à plusieurs, ou si vous aimez mieux, des tables dans le jardin. Ou bien vous pouvez juste boire un thé, ou un café, ou un chocolat, toute boisson forte à la mode. Vous pouvez aussi vous contenter d'un rafraîchissement. Puis vous vous rendrez devant le kiosque à musique pour écouter un petit concert. On trouve des Pleasure Gardens dans d'autres villes que Londres. Mais bien sûr, c'est dans la capitale qu'ils sont le plus nombreux. Sur les environ deux siècles qu'ils ont existé, entre le milieu du XVIIe et le milieu du XIXe, les spécialistes en ont dénombré plus de 600. Mais sur ce grand nombre, seulement une petite quarantaine ont proposé de la musique de manière régulière. Certains ont connu une grande longévité, presque deux siècles pour le Vauxhall par exemple. D'autres ont duré beaucoup moins longtemps, mais ils ont eu une grande popularité, comme celui du Ranelagh. Ces deux-là sont les plus connus, avec aussi ceux de Marylebone, Lambeth Wells et Sadler's Wells. Ce terme de Wells est significatif, source. C'est qu'en effet, à l'origine, ces établissements ont commencé comme des tavernes, comme des maisons de campagne le long de la Tamise, ou bien encore comme des sources médicinales, ou soi-disant médicinales. Thank you. Le Vauxhall a été l'un des premiers jardins de plaisir à ouvrir à Londres, sans doute en 1661. On l'appelle alors Spring Gardens. Spring, tout comme Wells, désignant une source. 1661, c'est la Restauration, juste après la période très puritaine du gouvernement de Cromwell. Les Londoniens ont beaucoup besoin de s'aérer. Il n'y a alors dans ce jardin que des arbres, des fleurs, des rossignols et des cerisiers pleins de cerises. Dans les jours chauds de l'été, c'est le lieu où se rendre pour des rendez-vous galants. Et bientôt, quelques instrumentistes sont invités, harpe et violon. Selon Jonathan Swift, c'est alors un paradis mahométain. Dans un guide touristique de 1726, le Vauxhall est signalé comme l'un des endroits de Londres à voir, mais qui mériterait cependant quelques nouvelles attractions. Justement, un Mr. Tyers acquiert le jardin. Il passe 4 ans à y faire moult améliorations et il ouvre en 1732 avec un bal masqué qui marque les mémoires. Le jardin se trouve sur la rive sud de la Tamise et les centaines de visiteurs costumés venus de la rive droite vont traverser le fleuve en bateau. Parmi eux, le prince de Galles a fait le voyage sur sa barge personnelle. Et bien sûr, des musiciens accompagnent la traversée. On peut imaginer, une fois dans le jardin, la foule bigarrée, riant et dansant jusqu'à l'aube. Le nouveau Vauxhall a grand succès et le propriétaire va sans cesse apporter de nouvelles améliorations pour rendre l'endroit plaisant. C'est un parc de près de 5 hectares, avec de grandes allées et d'autres plus petites et bien abritées par les arbres, qui ont pour nom « Allée des druides » ou « Allée des amoureux ». Et puis encore d'autres petits chemins qui ont fait beaucoup pour la renommée du lieu. L'une des grandes allées est surmontée de quelques arches de style Renaissance. Et non loin de l'entrée se trouve un endroit assez grand, The Grove, le bosquet, où se réunissent les meilleurs musiciens de Londres. Tout autour, des temples, des pavillons, des rotondes, des salles de tailles diverses, certaines pour écouter de la musique, d'autres pour exposer des tableaux, et puis des colonnades couvertes en cas de mauvais temps, et les box pour le dîner, où des générations de londoniens ont pu déguster le fameux poulet et jambon Vauxhall. Mais il semble que la féerie vienne particulièrement des illuminations, avec un millier de lampes qui s'allument toutes en un éclair, au moment même où la musique commence. les Londoniens qui aiment passer leurs soirées de printemps ou d'été dans les Pleasure Gardens, les jardins d'agrément, on trouve bien sûr quelques musiciens. Et notamment celui qui est alors considéré comme le plus grand, George Frideric Handel. Ce qui est amusant, c'est qu'il est à peu près certain d'entendre sa propre musique lorsqu'il s'y promène. Sa renommée est telle que le fameux Mr. Tyers, qui a élaboré les jardins du Vauxhall, va placer à l'entrée du parc une statue à son effigie. Mais une statue vraiment extraordinaire. Handel est représenté en Orphée, assis penché sur une pile de ses œuvres, une lyre dans les bras. Il ne s'est pas mis sur son 31 pour le sculpteur, au contraire, il est en négligé. Un petit bonnet d'intérieur sur la tête, le col ouvert, le pantalon dégrafé au-dessus du genou. Il a les jambes croisées, le pied droit posé sur une mule, tandis que la deuxième est suspendue au bout de son pied gauche. Par terre à côté de lui, un petit amour potelé semble noter les sons qu'il égrène sur l'instrument. La statue de Handel par Roubilliac, qu'on trouve à l'entrée, donne au jardin du Vauxhall une tonalité épicurienne. Cette statue fait partie des attractions du lieu, tout comme la musique du maître. En 1749, Mr. Tyers, le propriétaire, en guise d'opération marketing, va prendre en charge les illuminations du Green Park, où sera donnée pour la première fois la musique des feux d'artifice royaux de Handel, en échange de quoi il aura le droit de présenter dans ses propres jardins la répétition générale. Un événement qui va attirer tellement de monde au Vauxhall qu'on dit que pendant 3 heures à la sortie, on n'a pas pu circuler sur le London Bridge. Thank you. En 1764, à peine 15 ans après les mémorables feux d'artifice royaux de Händel, une famille de musiciens salzbourgeois est en visite à Londres. Le père, Léopold Mozart, écrit à un de ses amis « Le Vauxhall est quelque chose qui m'a saisi d'étonnement et qu'il est impossible de décrire. C'est ainsi que je me représente les Champs-Élyséens. Imaginez-vous un jardin étonnamment grand, avec toutes sortes d'allées bien éclairées par des milliers de lampes enfermées dans de jolis verres. Au milieu, une sorte de pavillon d'été ouvert et haut, dans lequel se trouve un orgue, et où l'on entend de la musique, des trompettes, des timbales et tous autres instruments. Le Vauxhall n'est pas le seul jardin d'agrément de Londres à disposer d'un orgue. C'est l'instrument quasi obligé de ces lieux de plaisir. Et le concerto pour orgue est le genre roi. C'est Händel qui l'a initié en jouant dans les entractes de ses oratorios. Et le public apprécie tellement qu'il en réclame encore. Thomas Arne, l'auteur de celui que nous écoutons, en est un grand pourvoyeur. Il est devenu, au fil des ans, le compositeur attitré du Vauxhall et aussi du jardin d'Uranlag et de celui de Marylebone. À côté de ses concertos, il compose aussi beaucoup de musique vocale, solo, duo, des chansons dites « Vauxhall Songs » et des petites cantates comme « The Morning », « Le Matin ». Au début, les Pleasure Gardens n'ont proposé que de la musique instrumentale. Puis, ils se sont mis à la musique vocale et c'est alors à qui invitera à venir chanter les plus grandes stars de l'opéra. Pour les œuvres, ce sont les compositeurs britanniques qui sont le plus sollicités, alors que dans les grands concerts en ville, on privilégie plutôt la musique du continent. Le public apprécie, un public très mélangé, puisque le droit d'entrée est assez modique, la classe moyenne y a accès, à côté des aristocrates. Comme le dit Léopold Mozart, pour leur argent, tous les hommes sont égaux ici, et aucun lord n'accepte qu'on se découvre devant lui.
Oh,
Grâce aux Pleasure Gardens anglais, non seulement la musique des compositeurs britanniques va pouvoir se faire entendre, mais par le mélange des genres qu'on y propose dans un cadre détendu et épicurien, le public va être amené à découvrir un répertoire immense. Il va se former le goût. Lorsque la mode changera dans le courant du 19e siècle, les Anglais se tourneront vers d'autres formes de concerts tout aussi populaires, comme les concerts promenades, qu'ils continuent encore aujourd'hui à fréquenter avec appétit. Mais ça, c'est une autre histoire. De la 6e symphonie en ré majeur de John Marsh, les London Mozart Players, dirigés par Matthias Bamert. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Clément Diaz pour les recherches et le site, Philippe Petit pour la réalisation et Claude Niort pour le mixage. À réécouter sur francemusique.fr.